Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous revoici donc dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Alice Zénitaire, L'art de perdre. 15 ans plus tôt, les officiers qui donnaient des ordres à Ali sur les champs de bataille européens ne mentionnaient jamais le danger en envoyant leurs hommes à l'assaut. Ils ne voyaient sans doute pas pourquoi fournir cet effort inutile, même s'ils avaient annoncé le pourcentage estimé de pertes, chaque homme aurait pensé que ce nombre était composé uniquement des autres, pas de lui. Les soldats peuvent comprendre théoriquement que la mort est pour eux l'issue la plus probable au combat, mais cette compréhension demeure de l'ordre mathématique. C'est du moins ce que j'imagine. Ils ne l'intériorisent pas. Moi. Le moi ne peut pas mourir. Ali se sent peut-être protégé par son incapacité à se penser mort. C'est une des raisons qui expliquerait qu'il ait eu l'audace d'effectuer ce voyage. Cette incapacité ressemble, s'il ne se montre pas trop regardant, à l'immortalité. Entre 1954 et 1962, nombreux sont ceux qui ont fait l'expérience de cette espérance magique. Ceux que l'on a traînés dans les villas dévoreuses de la capitale, dans les fermes mâchoires perdues dans les campagnes, dans les détachements de protection aux dents de loup, ceux que l'on a tenus au bord du vide ou la tête sous l'eau, ceux dont on a fendu le gland à force de décharges électriques appliquées directement sur la verge, ceux dont les corps ont été sectionnés partie par partie, ont continué à croire qu'au dernier moment, sans cesse repoussé, quelque chose appellerait la mort ailleurs, et que, même diminué, exsangue, même en charpie, pourrait vivre encore. La mort se tenait juste à côté d'eux dans la pièce, la mort multipliait les signes de son inexorabilité, et pourtant, ils la chassaient de leurs gestes désordonnés, de leurs grimaces, de leur écume rougeâtre au bord des lèvres, et de leurs râles et de leurs cris de terreur, de leur urine qui se répandait sous eux, de leurs doigts crispés sur les bras de leurs frères. Jusqu'au dernier moment, ils continuaient de croire que leur faible soubresaut pourrait éloigner la mort. Naïma ne sait pas comment, par quelle chance, réitérer à chaque kilomètre, son grand-père et son père, suivis de sa grand-mère, de son oncle et de sa tante, parviennent indemnes à Tefes-Choun et en franchissent les barrières. Elle imagine des miradors dressés sur le désert et une porte de fer, immense, comme un animal préhistorique, sur laquelle les survivants hagards cognent à poing fermé. Du camp, très rapidement, en grappe cachée dans des camions, on amène toute la famille jusqu'au port d'Alger. Les bateaux sont énormes, et sur la mer, leurs flancs sont un mur de métal. Les bateaux sont énormes, comme l'est la foule qui cherche à embarquer et qui s'agglutine sur les quais. Les bateaux sont énormes. Mais vu derrière cette marée humaine qui exige ou supplie d'obtenir une place, ils le sont un peu moins. Qui a décidé ceux qui pourraient y trouver refuge? Ils font monter à bord des animaux français, des poules, des moutons, des ânes, des chevaux français. Les chevaux sont absurdes au-dessus des flots, sanglés au ventre, pris aux jambes, entravés et levés comme des caisses, poussant des hennissements, montrant des yeux affolés qui tournoient sur eux-mêmes dans le crâne oblong, la capsule des os. Ils font monter des chevaux sur le pont. La houle et le roulis les rendent fous. Certains se brisent net la jambe avant, d'autres tombent par-dessus bord. On dirait qu'ils se jettent. Ils font monter des chevaux. Ils prennent à bord des meubles français, des plantes en pot dont les fleurs se détachent, des buffets larges comme des automobiles. D'ailleurs, ils chargent aussi des automobiles françaises. Un peu plus tard, ils rapatrieront même des statues déboulonnées des places devenues algériennes pour gagner l'abri de petits villages de France où les officiers de l'armée de 1830, figés pour toujours dans une pose de bronze, pourront continuer à saluer bravement, à tendre leurs lunettes ou à commander leurs soldats invisibles. Ils font monter des statues. Mais à des milliers d'hommes à peau sombre, ils disent, en essayant peut-être de dissimuler dans leur dos les chevaux, les voitures, les buffets et les sculptures. Ça n'est pas possible. Ils piétinent sur le pont en attendant de descendre un par un à la cale. La haute taille d'Ali se remarque dans la file d'attente d'hommes et de femmes voûtés. Il a perdu son chapeau dans la bousculade et son large front agrandi aux tempes par les pointes de peau nues qui s'avancent de plus en plus loin dans sa chevelure, lui, dans le soleil pâle. Il broie d'une main nerveuse l'épaule de son fils aîné, mais il reste droit. Aux balustrades des étages, quelques pieds noirs en larmes et d'autres en colère l'insultent de leur voix cassée, faisant de lui le représentant et le responsable de tous ceux qui seront bientôt les Algériens d'Algérie, mais dont lui pourtant ne fera jamais partie. « C'est une feinte. Dans 6 mois maximum, dit-il à Yema, on sera de retour au village. »« Inch'Allah, » ajoute-t-elle. Pour la première fois, il a l'impression qu'elle le rabaisse en disant ça, qu'elle lui rappelle que Dieu est au-dessus de lui et de ses analyses géopolitiques, comme des moindres de ses velléités d'action. Ce qu'il a toujours cru au village, ce qui le rendait heureux. Aujourd'hui, il a besoin du contraire. Il a besoin que sa femme, que ses enfants croient à sa force et à son pouvoir. Dans 6 mois, Yena ne veut pas jouer le jeu de la confiance, de la croyance. Elle ne veut pas de promesses. Demain, c'est le tombeau. Lorsque le bateau se met à vibrer de toute la puissance de ses moteurs, bourdonnement qui fait écumer la mer, au cas où il aurait tort, au cas où la France abandonnerait vraiment l'Algérie, impossible. Ali tente de fixer le paysage dans sa tête pour emporter de l'autre côté de la Méditerranée un souvenir précis. Mais qu'est-ce que c'est que ce paysage? Ce n'est pas le sien. Ce n'est pas la Kabylie. C'est la ville d'Alger. Une succession de rues et de maisons sans souvenirs qui y soient attachées. Il voudrait regarder avec intensité, mais rien ne fait bloc. Ni sens dans ce qu'il voit. Ce sont, pont de mur après pont de mur, des immeubles où vivent des gens qu'il ne connaît pas et qui ne lui sont rien, des rues dont il ignore les noms. Et il sent qu'au moment même où il les voit, les images s'effacent de son cerveau, il n'emporte rien. Il ne retient rien de ce paysage qu'il observe. Il commence même à croire qu'à force de fixer, il efface d'autres souvenirs. Comme si l'énergie qu'il mettait à ce dernier regard, pas le dernier, 6 mois maximum, provenait de la même source que celle nécessaire à la conservation des images anciennes. Et c'est peut-être des images de sa mère, peut-être des images du figuier, des images de l'Italie ou de l'un de ses mariages qui disparaissent. Même pas effacé par Alger, mais effacé par rien. Le soleil aveuglant, un paysage qui paraît éclater et se diviser en morceaux. Le bateau recule lentement dans les eaux du port. Vient alors à Ali l'image étrange d'une corde attachée à l'arrière de l'énorme ferry et reliée à la côte, de sorte qu'au fur et à mesure que le bateau s'éloigne, c'est tout le paysage qui est entraîné lentement, mais inexorablement dans la mer. La cathédrale et la casbah, la grande poste, le jardin des plantes, puis l'intérieur des terres qui se fait tracter à son tour et vient disparaître dans les vagues. Médéa, Bouira, une embardée tire sur la corde un grand coup sec. Biskra et Gardaïa plongent à leur tour, puis Timimoun et le sable du désert qui s'écoule de la plaie ouverte par le ferry en partance. Tout le Sahara, grain par grain, disparaît dans la Méditerranée. Pour Hamid, ce sera différent. Ils n'en parleront jamais. Mais dans la tête du petit garçon, la vision reste Alger la Blanche, éblouissante, prompte à réapparaître dès que l'on parle du pays. Précise et lointaine à la fois, comme une maquette de ville présentée sous vitrine dans un musée. Les ruelles qui découpent les maisons en blocs, l'escalade de la colline par des bâtiments lépreux, les villas, Notre-Dame d'Afrique qui déguise Alger en Marseille. Ce sera cette image-là qui s'installera derrière les yeux de Hamid et ressurgira chaque fois que quelqu'un dira « Algérie ». Et c'est pour lui un phénomène étrange. Car cette ville, il la voit pour la première fois au moment où le bateau s'en éloigne. Ce n'est pas elle qui devrait représenter le pays perdu. Cette ville, elle n'est pas perdue puisqu'elle n'a jamais été possédée. De cette manière dont les êtres humains peuvent posséder les villes par les heures de marche et par la faculté de remplacer mentalement chaque plaque de nom de rue par une scène qui s'est déroulée. Pourtant, c'est elle qui l'emporte, sans même le vouloir. Alger se glisse dans ses bagages. Pour Naïma, ce sera différent. Parce que pour elle, le bateau se prendra dans l'autre sens. Elle verra Marseille s'éloigner et Alger devenir proche. Elle pensera à son père, à son grand-père. Elle pensera « Alger n'est pas si blanche ». Elle pensera « Je vais pleurer ». Mais les larmes ne viendront pas et elle essaiera même de les forcer un peu en se disant « Je voudrais que quelque chose se passe, même si c'est désagréable ou affecté, parce que j'arrive en Algérie et que je ne peux pas simplement me tenir là, debout, contre la balustrade ». Elle pensera que ça a été une erreur de faire le voyage seule parce qu'elle aurait voulu partager ce moment avec quelqu'un. Elle pensera à Christophe, elle se dira une fois de plus qu'il faut qu'elle arrête de le voir, parce qu'elle ne peut pas du tout l'imaginer sur ce bateau avec elle. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas, peut-être qu'elle voudrait, mais il est tellement évident qu'il ne fera jamais rien de tel que même son imagination ne parvient pas à contourner cet obstacle pour créer une scène qui l'enchanterait quelques secondes. Même dans son imagination, Christophe, sur le pont du ferry, a un petit sourire ironique qui signifie enfin « Naïma, cesse de faire l'enfant et sors-moi de ce bateau ». Nous savons tous les deux que ce n'est pas en train d'arriver.
Yeah. secucu yine tefes olur zanesi şeker. Yeni şefeti tutele yeteni mi kullene deki surzuli yine bedenene cerasi sıvı neziken muğer. Yeni şefeti tmeci vatenni mi kullene deki zutana gari yine bedenene cerasi sıvı nakalagne muğer.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Alice Zénitaire, l'art de perdre. Je ne sais plus comment commence l'Énéide. Quelles sont les premières aventures que connaissent Énée et ses compagnons lorsqu'ils quittent Troie, ou plutôt l'endroit où Troie se tint par le passé et dont il ne reste que des ruines, l'odeur du sang et celle de la fumée. Je me souviens uniquement du premier vers que j'ai traduit en version latine il y a plus de 10 ans désormais, « Arma virumque cano ». Je chante les armes et le héros. Je suppose que venait ensuite une proposition relative, le héros qui, grâce à laquelle se déroulait toute l'histoire. Mais ma mémoire n'a conservé que ces 3 mots. Malgré le silence qu'est devenu ce long poème brodé de péripéties, il est évident qu'à la fin de sa pénible errance, Énée arrive dans le Latium et que sa descendance y fondera Rome. Entre le moment où Ali pose le pied en France, au mois de septembre 1962, et celui auquel Naïma réalise qu'elle ne connaît pas le récit de sa famille, mieux que je ne me rappelle l'Énéide, qu'advient-il ? Une histoire sans héros, peut-être. Une histoire en tout cas qui n'a jamais été chantée. Elle commence dans un carré de toile et de barbelés. Le camp Joffre, appelé aussi camp de Rifsalt, où après les longs jours d'un voyage sans sommeil arrivent Ali, Yema et leurs 3 enfants, est un enclos plein de fantômes. Ceux des républicains espagnols qui ont fui Franco pour se retrouver parqués ici, ceux des juifs et des tziganes que Vichy a raflés dans la zone libre, ceux de quelques prisonniers de guerre d'origine diverse que la dysenterie ou le typhus ont fauchés loin de la ligne de fond. C'est depuis sa création, 30 ans plus tôt, un lieu où l'on enferme ceux dont on ne sait que faire en attendant officiellement de trouver une solution, en espérant officieusement pouvoir les oublier jusqu'à ce qu'ils disparaissent d'eux-mêmes. C'est un lieu pour les hommes qui n'ont pas d'histoire, car aucune des nations qui pourraient leur en offrir une ne veut les y intégrer. Ou bien un lieu pour ceux auxquels 2 histoires prêtent des statuts contradictoires, comme c'est le cas des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qu'on y accueille à partir de l'été 1962. L'Algérie les appellera des rats, des traîtres, des chiens, des terroristes, des apostats, des bandits, des impurs. La France ne les appellera pas, ou si peu. La France secoue la bouche en entourant de barbelés les camps d'accueil. Peut-être vaut-il mieux qu'on ne les appelle pas. Aucun nom proposé ne peut les désigner. Ils glissent sur eux sans parvenir à en dire quoi que ce soit. Rapatriés ? Le pays où ils débarquent, beaucoup ne l'ont jamais vu. Comment alors prétendre qu'ils y retournent, qu'ils rentrent à la maison ? Et puis ce nom ne les différencierait pas des pieds noirs qui exigent qu'on les sépare de cette masse bronzée et crépue. Français musulmans. C'est nier qu'il existe des athées et même quelques chrétiens parmi eux, et ça ne dit rien de leur histoire. Harkis ? Curieusement, c'est le nom qui leur reste. Et il est étrange de penser qu'un mot qui, au départ, désigne le mouvement, Arka, se fige ici à la mauvaise place et semble-t-il pour toujours. Les Harkis, à proprement parler, c'est-à-dire les supplétifs engagés dans les Arka, sorte de détenteurs d'un CDD paramilitaire renouvelable, comme le comprendra plus tard Naïma, ne constituent qu'une portion des milliers de personnes qui peuplent le camp. Ils côtoient les Moghazni, qui travaillaient pour les SAS, section administrative spécialisée, et les SAU, section administrative urbaine, les membres des GMS, groupe mobile de sûreté, et des anciens GMPR, groupe mobile de police rurale, appelés familièrement les Jean-Pierre. Les habitants des GAD, groupe d'autodéfense à qui l'armée française avait confié fusils et grenades pour protéger leur village. Les auxiliaires musulmans de l'État français, Caïd, Cadi, Amin et gardes champêtres. Les élus locaux, les petits fonctionnaires, les militaires de métier, les PIM, prisonniers internés militaires, des hommes du FLM capturés par l'armée que l'on forçait à prendre part aux assauts sous haute surveillance. Les marabouts, les chefs de Zaouïa. Et à ce bataillon masculin déjà disparate, il faut ajouter l'ensemble des familles qui sont arrivées là, elles aussi, femmes, enfants, vieillards, tous désignés désormais par le terme de Harki. Est-ce que le fils du boulanger est boulanger ? Est-ce qu'un coiffeur qui change de métier est toujours coiffeur ? Est-ce qu'un vendeur de vêtements est tailleur sous prétexte que les deux métiers se ressemblent ? Le camp est une ville précaire poussée dans la précipitation sur les ruines de l'utilisation précédente, et dont les nouveaux baraquements sont à peine assemblés que déjà ils sont insuffisants. Chaque jour, ou plutôt chaque nuit, car les transports se font dans la clandestinité, le camp grossit davantage, alimenté par le flux continu des camions bâchés venus tout droit de Marseille, ou bien du Larzac, que l'on désengorge pour éviter la catastrophe humanitaire. À l'automne, cette ville de fragilité et d'urgence, cette ville peuplée de perdus, compte près de 10 000 habitants, ce qui en fait la deuxième du département juste après Perpignan. Hamid et sa famille remontent une allée le long de laquelle les tentes s'entrouvent pour laisser apparaître des visages curieux et fatigués. Les regards insistent et s'attardent, détaillant leurs traits, évaluant la taille des paquetages qu'Ali porte sous son bras. Hamid et Dalila, agacés par cette haie d'yeux perçants, tirent la langue aux observateurs. Kader, effrayé, pleurniche dans les jupes de Yema. Ils feront bientôt pareil eux aussi. Ils guetteront les nouveaux arrivés dans l'attente d'une silhouette connue, ou dans l'espoir que son bagage contienne l'une des trop nombreuses denrées qui manquent ici. Quand un soldat leur montre la tente où ils peuvent s'installer, la voix du soldat hésite et faiblit en prononçant ce mot, Ali dit « Merci, monsieur ». Il n'est pas possible, à Rifsalt, d'oublier la guerre qu'ils ont fui. Tout la rappelle. Les rituels du camp, la dureté, ces clôtures sont des émanations de l'armée. Alors que les familles sont officiellement en transit, elles sont dépossédées de leur liberté de mouvement. Il conviendra de soumettre les allées et venues à une certaine surveillance. Les sorties du camp ne doivent être autorisées que pour des motifs sérieux, rappelle Pompidou dans une note. Ce Cali bégaye dans son français saccadé n'est jamais sérieux aux yeux des militaires à qui il s'adresse. La pantomime par laquelle il cherche à combler les manques de la langue le discrédite, alors il reste là dans l'enclos de Rivesaltes, en tentant de se faire à ce rythme de vie imposé, en tentant de donner à sa famille l'image d'un homme fort, alors qu'il n'est plus en charge de rien, pas même des minuscules détails de la vie quotidienne. Au matin, ils assistent au lever des couleurs. Accompagné d'une trompette maladroite et poussive, et debout dans le froid, il regarde le drapeau tricolore monter en grinçant le long du mât métallique. Les repas sont annoncés par une sirène que diffusent des haut-parleurs perchés sur des poteaux. On voit alors sortir des tentes ou des baraques de tôle et de carton qui ne protègent de rien, et surtout pas du vent, ce vent tenace qui entre à l'intérieur de la tête, cette tramontane dont le nom enchante Hamid autant que son souffle l'irrite. Des hordes de désoccupés qui tiennent une gamelle en aluminium. Des distributions d'habits ont lieu régulièrement, chiffons déversés à même le sol sur des bâches et à la tonne pour vêtir des milliers de grelottants que la boue et le froid prennent par surprise. Les enfants ont reconstitué des bandes dans les allées et se mesurent aux fils barbelés qui entourent le camp. Hamid dépasse un peu le quatrième, Kader atteint à peine le troisième. Dans la journée, on peut parfois les entendre rire, les voir passer en courant entre les baraques comme une envolée d'oiseaux sauvages. Mais quand la lumière descend, quand le ciel s'éteint, les sons de Rivesaltes se transforment. Les nuits du camp sont un théâtre d'ombre et de cris. C'est comme si des ogres invisibles parcouraient les allées, pénétraient dans les tentes et serraient leurs grosses mains noircies de sang et de poudre autour des gorges, pressaient leurs paumes énormes contre les poitrines, enfonçant les cages thoraciques ou embrassaient de leurs larges bouches aux dents pourries, au souffle de mort, les visages minuscules des enfants. Il est loin le temps où il n'existait qu'un ogre commun qui s'appelait Sétif. Désormais, chacun porte son ogre individuel, un ogre de poche, qui a pris lui aussi le bateau et qui sort la nuit. Alors les cris s'élèvent d'une tente à l'autre, puis les voix des mamans qui chantent les berceuses, les reproches des voisins qui demandent le silence, les murmures étouffés par les épaisseurs de toile. Les ogres de la nuit sont nés des souvenirs, mais ils se renforcent des peurs du présent et de celles de l'avenir. Quant à ceux que, faute de mieux, on appelle les harkis, quand ils ont demandé pourquoi ils étaient parqués ici, où elle était la France, le reste du pays, on leur a répondu que c'était pour leur bien, que le FLN les cherchait encore et qu'il fallait les protéger. Depuis, chaque nuit, ils tremblent qu'on les égorge sans bruit, un par un, pour finir le travail. Le matin, machinalement, ils portent la main à leur cou. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Alice Zéditer, L'art de perdre, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.